D'avoir choisi RFI pour vous informer. Il est minuit à Boston, 6h ici à Paris. Bonjour Marion Kazadov.
Bonjour Vincent Dublanche.
Le journal international avec vous et les Bleus, une nouvelle fois en demi-finale du Mondial de foot.
Et la troisième d'affilée après leur victoire 2-0 hier soir contre le Maroc, malgré une première période accrochée, un pénalty raté. Mais à la fin, c'est donc une qualification pour la France qui a vibré jusque tard dans la nuit. En Iran, la fin des funérailles d'Ali Khamenei, l'ancien guide suprême, sur fond de reprise des hostilités avec les États-Unis. Ces obsèques ont notamment permis au régime de Téhéran de donner l'image d'un pays fort et uni. Une nouvelle plainte contre le président guinéen déposée en France dans le cadre de la disparition des opposants Fonik Emenge et Mamadou Biloba. Et puis une entrée en bourse historique. Le géant des semi-conducteurs SK Hynix, entreprise coréenne, va lever plus de 26 milliards de dollars à son introduction à Wall Street aujourd'hui. Les Bleus sont toujours dans la course. La France s'est qualifiée cette nuit en demi-finale de la Coupe du Monde de football après sa victoire 2-0 contre le Maroc. Et la nuit a donc été courte pour les supporters, très nombreux à se presser dans les bars pour vivre ensemble cette rencontre. Ensemble, mais pas toujours forcément pour la même équipe. Reportage à Paris de Marius Lafont.
Je suis pour le gagnant, la vérité.
Deux copains, un avec un drapeau du Maroc sur les épaules.
Là, si le Maroc qui gagne, c'est vrai que ça ferait une joie en plus. Ça sera tout nouveau pour le Maroc.
Et l'autre avec le drapeau français.
Moi, je suis tunisien. Mon pays, il n'est pas allé loin. mais bon, c'est pas grave. On n'oublie pas d'où on vient. J'ai grandi en France, je suis né en France. C'est la France qui me nourrit.
Les terrasses du quartier du Marais, dans le centre de Paris et du 11e arrondissement, sont bondées.
Ça y est, le coup d'envoi vient d'être sifflé. Le match commence.
La mairie a piétonnisé les rues jusqu'à 5h du matin et les bars font le plein de supporters.
Il y a Péno, Mbappé qui vient de faire une accélération formidable.
Kylian Mbappé tire son pénalty, arrêté par Yacine Bounou, le gardien marocain. Les Bleus dominent le jeu, les supporters français trépignent. Ça y est, à la 60e minute, Kylian Mbappé ouvre le score.
Vraiment une pleine frappe de Kiki, vraiment.
On est dans l'artistique là, carrément.
Dans l'artistique, c'est vraiment, tu vois, t'es comme ça sur le ballon, et non, c'est grave.
Je supporte le Maroc, mais là, on peut que dire que c'est magnifique le but.
6 minutes plus tard, Ousmane Dembélé marque à nouveau. La soirée se termine sur une explosion de joie qui résonne dans les rues de la capitale. 2-0, les Français empochent leur ticket pour la demi-finale.
Un reportage de Marius Lafont avec Steven Elsley pour les moyens techniques. La France est donc la première qualifiée pour ses demi-finales du Mondial. Elle connaîtra son adversaire ce soir. Ce sera le gagnant de la rencontre Espagne-Belgique. Coup d'envoi à 19h, temps universel. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur nos antennes africaines. Et avant, on refait un point sur ce Mondial dans une demi-heure dans le journal de la Coupe du Monde. En Iran, les derniers adieux à Ali Khamenei, l'ancien guide suprême, a été inhumé il y a quelques heures à Mashhad, sa ville d'origine dans le nord-est. Il avait été tué il y a 4 mois au premier jour des frappes israélo-américaines. Ses funérailles ont duré 6 jours, 6 jours d'hommage marqués par des foules de fidèles vêtus de noir, en pleurs, en colère aussi. L'occasion pour le régime de donner l'image d'un pays uni et fort. C'est ce qu'estime le spécialiste de l'Iran, Jonathan Piron.
Ces cérémonies ont permis en fait au régime d'essayer de mettre en scène sa puissance, non seulement le fait qu'il est toujours stable, mais de connecter aussi le religieux, le politique et le nationalisme. Et c'est aussi un message qui s'est adressé aux pays de la région. Il y a eu toute une série d'invitations qui ont été lancées. Il y a aussi eu des funérailles qui ont été menées jusqu'en Irak pour connecter la communauté chiite, ce qui est quand même aussi un message fort qui est envoyé par le régime iranien, qui essaye de prouver qu'il n'est pas isolé. Maintenant, il y a aussi beaucoup de propagande, de mise en scène dans ces funérailles. Le régime a parlé de plusieurs millions de personnes présentes dans les rues, avançant parfois même des chiffres assez exceptionnels, mais qui ne reflètent peut-être pas la réalité. Il est certain qu'il y a eu plusieurs centaines de milliers, voire même peut-être quelques millions de personnes dans les rues, mais on n'est pas non plus dans une ampleur folle. Il reste toujours difficile d'imaginer aussi dans quelle mesure la population y participe. Il y a certainement des fidèles, il y a aussi certainement des curieux, des personnes qui viennent soutenir l'Iran et pas le régime. Mais l'enjeu maintenant, en fait, pour le régime, c'est la reconstruction, c'est l'économique, c'est le social, et on sait que de ce côté-là, il est toujours dans une situation qui est très compliquée.
Jonathan Piron, spécialiste de l'Iran, il répondait aux questions d'Oriane Verdier. Ses funérailles ont aussi été marquées par la reprise des hostilités avec des frappes dans la région. Une installation militaire près de Bouchehr, dans le sud de l'Iran, a été frappée. Et hier, la ville abrite aussi la seule centrale nucléaire en activité de l'Iran. Le président américain, lui, s'est entretenu avec le premier ministre israélien. Donald Trump a informé Benjamin Netanyahou des derniers mouvements américains dans le Golfe. Sur la guerre en Ukraine cette fois, Donald Trump, mercredi, avait annoncé qu'il allait autoriser Kiev à fabriquer des missiles Patriot, missiles indispensables pour intercepter les frappes russes. Des accords sur les aspects techniques sont encore nécessaires, a précisé hier soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La veille, il avait rencontré son homologue américain au sommet de l'OTAN à Ankara. Donald Trump qui n'a pas de nouvelles de Mitch McConnell. Pourtant, l'absence de ce sénateur du Kentucky âgé de 84 ans est très remarquée. Cette figure historique du Parti républicain est hospitalisée depuis près d'un mois. Une absence remarquée car elle pourrait avoir un impact sur la bonne marche du Congrès et par ricochet sur l'application de la politique de l'administration Trump. À Washington, la correspondance de Vincent Souriau.
Mitch McConnell n'est pas apparu en public depuis un mois et son entourage ne livre aucun détail sur ses ennuis de santé. Devant la polémique autour de son absence qui enfle ces derniers jours, plusieurs élus républicains assurent qu'ils lui ont parlé au téléphone, qu'il a toute sa tête et qu'il devise comme si de rien n'était à propos de l'Iran ou de la guerre en Ukraine. Peut-être, mais le problème, c'est son siège au Sénat, car en vertu de son ancienneté et de son expérience parlementaire, Mitch McConnell occupe des fonctions sensibles. Il est membre de la commission des crédits du Sénat, l'organe qui examine le budget fédéral, et il préside la sous-commission chargée du financement de la défense. S'il n'est pas là, alors que le Congrès reprend ses travaux à partir de lundi, l'équilibre politique de ces groupes va changer. Avec McConnell, les républicains ayant une voix d'avance. Sans lui, les conservateurs se retrouveraient à égalité avec les démocrates, avec tout au bout du tunnel, un possible risque de blocage budgétaire. Pour l'instant, les dirigeants du Parti républicain font bloc derrière lui, mais l'opposition demande des comptes. Il est temps, réclament les démocrates du Kentucky, de savoir si Mitch McConnell est encore en état de servir son pays ou s'il faut se diriger vers une élection partielle. Vincent Souriau, Washington RFI.
Au Sénégal, un revers pour Ousmane Sonko et son parti, le PASTEF. Le Conseil constitutionnel invalide la réforme portée par le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Elle Elle prévoyait de donner plus de pouvoir à l'Assemblée et au Premier ministre et s'inscrivait dans le bras de fer, dans le cadre du bras de fer qui oppose les anciens alliés, Ousmane Sonko, donc au président Bassirou Diomaye Faye. Une réforme contraire à la Constitution ont donc tranché hier les sages du Conseil constitutionnel. Une nouvelle plainte déposée à Paris contre le président de la Guinée, Mamadi Doumbouya, et ses proches. Il y a 2 ans, le 9 juillet, Fonny Kemenge et Mamadou Biloba, deux des principaux dirigeants du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, étaient brutalement arrêtés. Ils sont toujours portés disparus. Hier, leurs avocats ont donc déposé une seconde plainte. La première avait été classée sans suite, car le parquet estimait ne pas avoir la preuve que Mamadi Doumbouya a la nationalité française. Pour maître Vincent Brengart, avocat au barreau de Paris, la justice doit désormais diligenter une enquête dans ce dossier.
C'est une étape décisive dans le cadre de ce que nous considérons être un crime d'État. Et il est impensable pour nous que ce crime d'État reste impuni. Et la voie procédurale la plus indiquée aujourd'hui, c'est cette ouverture d'information judiciaire en France, parce qu'on sait que, au vu du manque d'indépendance des juridictions guinéennes, il est totalement inenvisageable qu'une enquête puisse véritablement prospérer. Et non seulement il y a un enjeu du point de vue de la manifestation de la vérité, du point de vue de la responsabilisation d'un certain nombre d'acteurs, et un enjeu très immédiat. Aujourd'hui, nous sommes à 2 ans de la disparition des deux activistes et on peut penser que si la justice française tape du poing sur la table, si la justice française prend la mesure de la gravité des faits que nous dénonçons, ça peut être aussi un moyen d'accélérer les choses pour obtenir des informations sur l'endroit où ils se trouvent, s'ils sont toujours en vie.
L'avocat français Vincent Brengart, propos recueillis par Guillaume Thibault. RFI, 6h09 à Paris, 4h09 en temps universel. En Europe, les températures vont encore grimper aujourd'hui. Le Royaume-Uni a connu hier une 8e journée à plus de 34 degrés depuis le début de l'année. C'est un record. En France, une dizaine de départements sont en vigilance rouge. Canicule aujourd'hui dans l'ouest. Des incendies ravagent aussi des centaines d'hectares de végétation. Des incendies aussi en Espagne. Un feu de forêt a fait 12 morts dans le sud, en Andalousie. Ces canicules sont intensifiées par le réchauffement climatique d'origine humaine, mais aussi par El Niño, ce phénomène météo naturel. Ce phénomène qui est actuellement en formation pourrait battre des records d'intensité. C'est ce qu'a déclaré un expert d'une organisation intergouvernementale, le Centre européen pour les prévisions météo à moyen terme. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est l'une des plus grandes entreprises au monde. Le coréen SK Hynix, géant des puces mémoire, fait aujourd'hui son entrée en bourse aux États-Unis. Il est déjà coté à la bourse de Séoul et cette entrée donc à Wall Street, cette fois, est fracassante. Le fabricant de semi-conducteurs veut lever avec cette opération plus de 26 milliards de dollars, soit la deuxième plus importante levée de fonds de l'histoire derrière SpaceX. Nathanaël Vitran, ces chiffres montrent l'engouement persistant des marchés pour l'intelligence artificielle.
La preuve que derrière la crainte toujours bien réelle d'une bulle de l'intelligence artificielle, les investisseurs continuent de croire aux perspectives de croissance du secteur. Et c'est d'autant plus vrai pour SK Hynix que, contrairement à OpenAI ou Anthropic par exemple, l'entreprise coréenne ne vend pas du rêve ou des promesses de gains de productivité difficiles à mesurer. Elle vend du concret, des puces électroniques dernier cri, celles qui fournissent aux centres de données leur puissance de calcul. Et dans la mesure où des centaines de milliards de dollars ont déjà été investis, que ces centres de données poussent comme des champignons un peu partout dans le monde, les carnets de commandes des quelques géants du secteur, Nvidia, Samsung et donc SK Hynix, sont remplis pour plusieurs années. L'objectif de cette levée de fonds est d'ailleurs pour l'entreprise de financer la construction d'usines pour accélérer encore la mise sur le marché des puces électroniques. À l'heure actuelle, la demande venue des géants de l'IA est telle qu'elle a fait grimper les prix de toute l'électronique grand public dans des proportions qui ont de quoi inquiéter.
Nathanaël Vitran, RFI, 6h12 à Paris. On poursuit ensemble notre tour du monde de l'actualité avec nos chroniques.
RFI, toute l'actualité,
Marion Cazanov.
Avec d'abord le reportage international. Avec les pêcheurs de tir dans le sud du Liban, leur activité est très éprouvée par la guerre et leurs revenus aussi. On ira ensuite en Corée du Sud. Le pays s'apprête à interdire la viande de chiens, mais ces chiens élevés dans des fermes ne sont pas pour autant sortis d'affaires. On va le voir avec notre correspondante à Séoul. On fera un tour aussi au Festival de théâtre d'Avignon avec la pièce Nos Assemblées qui fait participer le public. Le public doit se décider pour sa pizza idéale. C'est une métaphore en fait de la démocratie. Vous le verrez, ce n'est pas si loufoque que ça. À suivre également le Conseil Santé, un tour dans notre playlist musicale. Tout cela avant le retour de l'actualité africaine. On a parlé dans le journal, les funérailles de l'ancien guide suprême Ali Khamenei s'achèvent après 6 jours d'hommage. Ali Khamenei a été inhumé il y a quelques heures à Machhad, sa ville d'origine. Des funérailles marquées par la reprise des hostilités entre l'Iran et les États-Unis, alors qu'au Liban, le cessez-le-feu avec Israël tient toujours malgré, elle a aussi des frappes de l'armée israélienne dans le sud. Une guerre que vivent les Libanais sur terre et sur mer, à Tyr. Les bateaux restent amarrés, pourtant des centaines de familles vivent de la pêche. Ces pêcheurs n'osent plus s'éloigner des côtes sous la menace des patrouilles et des drones israéliens. Reportage sur place d'Amélie David.
Le port de pêche de Tyr est calme en cette fin juin. Une majorité des pêcheurs sont à Kir et par leur filet, leurs bateaux, comme Maroun Khouri et son père. Pour eux, le cessez-le-feu n'a rien changé.
Aujourd'hui, la situation est un peu difficile pour les pêcheurs. Avant, il y avait des zones plus au sud où ils pouvaient aller pêcher. Maintenant, il y a seulement 2 jours, par exemple, un bateau s'est rendu là-bas. Il est allé assez loin, mais ils ont été interrogés et contraints de s'arrêter. Désormais, nous sommes limités à ces zones de pêche situées à proximité.
Chez les Khouri, on est pêcheurs de père en fils, mais Maroun dit 19 ans n'a jamais connu une situation aussi difficile.
Si vous divisez tout entre nous, chaque personne sur le bateau gagne autour de $10 par jour. $10 après avoir payé le diesel. La mer ne vous rend pas riche. Vous gagnez juste assez pour manger.
Sur le port, les bateaux sont plus nombreux que les hommes en mer. Autour d'un café, ceux qui ne sortent plus attendent des jours meilleurs. Seule une quarantaine d'entre eux continuent aujourd'hui de prendre la mer, selon le vice-président du syndicat des pêcheurs du Sud, Sami Reza.
Maintenant, nous ne sommes pas autorisés à pêcher entre Ras Al Ain et Rachidi et les pêcheurs ne peuvent toujours pas pêcher 24 heures sur 24. Il y a des heures spéciales pendant lesquelles nous avons le droit de sortir. La zone de pêche s'étend sur environ 3 km au sud de Tyr.
Aux restrictions imposées semblables à celles en place pendant l'occupation par Israël du sud du Liban dans les années 80, s'ajoutent les menaces et la peur.
Si un pêcheur dépasse la limite autorisée, les patrouilleurs israéliens ouvrent le feu sur lui. Les drones le repèrent immédiatement. Que sommes-nous censés faire ? Avant-hier encore, des patrouilleurs israéliens ont poursuivi un bateau de pêche jusqu'à Tyr, tout en tirant dans sa direction. Les drones sont présents tous les jours. Ils ne laissent jamais les pêcheurs tranquilles. Les petits drones de surveillance tournent constamment au-dessus de leur tête, suivant chacun.
Écoute, je vais te dire un truc, Jérôme. Il y a une expression américaine en anglais qui dit « Rock and roll is dead ». Ce qui veut dire « Le rock and roll est mort ». Mais c'est pas vrai. Le rock and roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Tu comprends ?
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif. À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
We'll be right back.
plus d'essai. Chaque vie est pour ceux qui ont perdu leurs parents par divorce ou décès. J'éducasse pas, trop de gens représentés. Fini la trou, voilà le décor planté.
Alors tu marcherais comme un cul-de-chat sans parents. Même si le rapport n'est pas toujours apparent. Ceux qui rendent ton cœur vite, limite transparent. Leur faire des rapports, c'est pas toujours marrant. Comme les fins du mois qui commencent le 10. Chacun dans son coin, les yeux se plissent. Chacun supplie, tout le monde se plie. Cherchant la lumière, personne n'oublie que de garder les coudes serrés permet de ne pas se casser. Le fait qu'il nous ait vu grand trop tôt doit être effacé. C'est pas facile quand on a dû se casser. De gré ou de force, ils nous ont fait nos lacets. Toi en pleine crise d'adolescence, il fait le mec lassé. Qui trouvait le courage après le taf de te bercer. De supporter tes cris, tes caprices et toujours verser. Une larme de joie, la réussite présente. Le bien existe parce que le monde